on n'est pas des professionnels. Je ne suis pas un professionnel de la prédication. Et donc, je m'interroge toujours. J'interroge le Seigneur, j'interroge le Saint-Esprit. Et donc, j'ai bien réfléchi à ce que je vais vous dire. Mais je me suis placé devant le Seigneur afin d'être devant vous, transparent. Et je suis le premier à avoir accepté ce que je vais vous dire. Je voudrais vous conduire dans l'épître de Paul aux Romains, tout d'abord au chapitre 12. Épître de Paul aux Romains au chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, bien sûr, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous suivons encore. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Je voudrais commencer ce message par une histoire. Celle d'un jeune Africain qui est à Vendres. Ses parents viennent d'être vendus. Et la famille est définitivement, irrémédiablement séparée. Le silence s'impose sur ce marché parce qu'il reste un jeune garçon, le fils, qui est là et dont la vie est mise aux enchères. Et de façon étonnante, les enchères montent. Et notamment de la part d'un homme qui, à chaque fois, surenchérit. Je ne sais pas si vous avez assisté à une vente aux enchères à une époque. J'avais du temps, j'étais jeune, et j'avais du temps. Et il m'arrivait certaines après-midi d'aller à la salle des ventes. Et j'étais devenu un petit peu un spécialiste de la salle des ventes à force de la fréquenter. Et il arrivait que quelquefois deux personnes se prennent comme ça en défi pour un objet qui ne semblait avoir aucune valeur intrinsèque. Et ça montait. Et au point où quelquefois la foule, il y avait du monde, disait « Oh, oh, c'est pas possible, c'est pas possible. » Et ainsi, sur ce marché, c'est ce qui se passe. Les enchères montent. Alors certains se disent, peut-être chez ce garçon, il y a un potentiel que l'on ne connaît pas. D'autres pouvaient penser que celui qui surenchérit avait certainement une idée derrière la tête. Peut-être était-ce un humaniste. On ne savait pas. Mais toujours est-il que le coup de marteau tomba, adjugé, vendu. Pendant que l'on détachait l'adolescent, l'acheteur s'approcha pour en prendre livraison. Et là, personne n'oubliera jamais cette scène. Et là, il glissa dans la main de ce garçon un papier qu'il avait déjà préparé. Et il lui déclare « Tiens, tu es libre. » Mais qu'est-ce que la liberté pour un enfant habitué depuis sa naissance à l'esclavage. Il lui dit à nouveau, je t'ai acheté pour que tu sois libre. Tu n'es pas obligé de venir avec moi, tu peux rejoindre tes parents qui viennent d'être vendus, ainsi vous serez à nouveau réunis. Le garçon commençait à comprendre ce qui lui arrivait et le choix devant lequel il était placé. Il avait trois choix, en fait. Le premier, celui de rejoindre ses parents et de se retrouver dans la servitude avec eux. Le second était celui de fuir, sortir de ce marché. Mais il était fort à parier que rapidement, quelqu'un lui mettrait la main à nouveau dessus. Et le troisième choix, c'était de suivre celui qui venait de l'affranchir. Cet homme généreux qui n'avait pas un seul instant hésité à payer le prix fort pour lui donner la liberté. Cet homme devait être particulièrement bon. Il pouvait donc, en toute liberté, le suivre. Que risquait-il ? Alors, tout à coup, ce garçon se jeta à ses pieds pour lui déclarer dans un très mauvais français « Toi, achetez-moi très cher. Toi, bon. Moi, suivre toi. » Et il lui tendit le papier en ajoutant « Moi, esclave de toi, jusqu'à la mort, chez toi. » Alors, la main de son nouveau maître, d'une façon ferme, l'obligea à se lever et à le suivre. Des centaines de yeux les suivirent, se demandant s'ils avaient bien vu ce qu'ils venaient de voir et entendre ce qu'ils venaient d'entendre. Voyez-vous, cette scène n'est pas exceptionnelle, elle s'est répétée des centaines de fois. Dieu même, dans sa loi, tolérait l'esclavage. Mais on ne pouvait pas être esclave plus de 7 ans. Et de toute façon, les esclaves étaient tous libérés au moment du jubilé. Mais il pouvait arriver que certains esclaves, étant bien traités, bien nourris, bien logés, ayant une grande liberté, certains même géraient les biens de leur... livre de l'Exode. Alors, l'esclave, et c'est paradoxal, l'esclave libre, le libre esclave, était conduit près d'un poteau et d'un coup de poinçon, on lui perçait l'oreille. Et il était définitivement au service de ce maître, bon et généreux. En tant qu'être humain, maintenant, nous avons dans ce récit et dans ces exemples l'image de 3 niveaux de vie autorisés légalement et auxquels nous avons accès. Premièrement, l'esclavage. C'était la vie normale de ce garçon, autorisé par la loi, sous le contrôle d'un maître. Un service fait de contraintes, d'obligations, de sanctions, de labeur. Le deuxième statut, c'est celui d'affranchi. Ce garçon est affranchi lorsqu'il reçoit l'attestation qui le libère. Là aussi, la loi l'autorisait, bien que cette liberté posait de nombreux problèmes. Elle demeurait précaire, de très courte durée. Et cette liberté, il a failli la perdre volontairement pour rester solidaire de ses parents. Puis, en envisageant de fuir, car il ne serait pas allé très loin avant d'être saisi à nouveau. Il avait très vite compris qu'il se retrouverait sous une nouvelle autorité. Et en fait, il est resté libre très peu de temps. Très peu de temps entre le moment où il est affranchi, ce papier le libère, et le moment où il se remet sous l'autorité de celui qui vient de le libérer. Une transition très courte. Et la troisième situation, c'est celle qui consiste à accepter librement un nouvel esclavage, en se soumettant librement à une loi plus élevée, celle de l'amour. Alors certains ont déjà compris où je veux en venir. Et en reprenant ces trois points, le premier, celui de l'esclavage, c'est là la situation de tout être, de toute femme, de tout homme, sans Dieu, sans espérance. Jésus, se tournant vers ses contemporains, et notamment ses hommes religieux, leur dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alors ces hommes religieux s'élèvent et ils déclarent, nous n'avons jamais été esclaves de personne, nous sommes des descendants d'Abraham. Et Jésus continue et déclare, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous lisons cela dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Pierre ajoutera, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est dans la condition de l'homme, de l'être humain. Son Dieu, il est esclave. Il est esclave de lui-même, il est esclave de ses passions, il est esclave de toutes sortes de choses. La deuxième situation, c'est l'affranchissement. C'est ce que nous propose, avec le pardon de nos péchés, Jésus. Ce faisant, il nous rend à nous-mêmes. Tu es libre, dira-t-il à cette femme. Où sont ceux qui t'accusaient? Ils ne sont plus. Alors, je ne t'accuse pas non plus. Va et ne pêche plus. Il le rend la liberté. Il la rend la liberté. Et c'est là notre première expérience avec le Seigneur. C'est cette liberté qui devient notre. Nous sommes affranchis, libérés. Pour les uns, c'est un petit truc comme ça. Le tabac, pour d'autres, c'est un verre de vin, ou plutôt une bouteille. Pour d'autres, je ne citerai pas. Chacun sait à quoi il a été esclave. Jésus nous rend la liberté. Ce faisant, il nous rend à nous-mêmes. Et là, nous sommes dans cette période de transition. Nous sommes libres. Qu'allons-nous faire ? Retomber entre nos propres mains ? Il n'y a pas pire maître que nous-mêmes. Quelqu'un me disait, il vaut mieux être sous la coupe d'un contremaître que sous sa coupe. C'est un homme qui n'arrêtait pas. Et je lui dis, pourquoi vous travaillez comme ça ? Prenez du temps, reposez-vous un petit peu, il était à la retraite. Il me dit, monsieur, il n'y a pas pire maître que soi-même. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et puis, troisième situation, l'esclave libre. Celui qui a compris que cette transition doit être brève, courte. Sinon, je risque de retomber sous ma coupe ou sous celle de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre. Alors, il me faut rapidement revenir à ce maître généreux, bon, qui a payé le prix fort. Jésus a donné sa vie en rançon pour nous. Revenir vers ce maître qui nous déclare « Je suis doux et humble de cœur ». Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Renoncer à la liberté qui est devenue mienne pour passer d'une captivité à une autre captivité. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. L'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Paul, apôtre et serviteur de Dieu. En fait, le terme, c'est esclave. Paul est sorti de l'esclavage de la loi. Paul a été libéré de cet esclavage-là, de ses traditions, des coutumes, du judaïsme, pour devenir esclave de Jésus-Christ, pour accepter cette loi d'amour. Mais c'est une loi. Pouvons-nous comprendre aussi rapidement que ce jeune garçon ? Nous sommes tous placés devant un tel choix lorsque nous rencontrons Christ. L'avons-nous réalisé ? Le réalisons-nous ? Que pouvons-nous en conclure ? Il nous est dit dans le texte de l'évangile de Jean que plusieurs de ses disciples, après avoir entendu Jésus dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Plusieurs de ses disciples se retirèrent. Alors Jésus se tourna vers les 12 et leur demanda « Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ?» Cette parole est dure. Alors le thème de mon message ce matin est celui-ci. L'œuvre de la croix et le chemin de la croix. Il nous faut dissocier l'œuvre de la croix du chemin de la croix. Ce choix est incontournable. Il se présente à tout être humain, et ce matin encore. Ce choix dû aux deux conséquences de la mort de Jésus à la croix. L'œuvre de la croix est au passé. J'ai été pardonné. Christ a donné sa vie pour moi. Il a tout accompli. Toute l'œuvre de la croix est au passé. Mais tout en étant au passé, elle se reçoit. Et ce matin, quiconque s'approche du Seigneur humblement et le cœur repentant trouve au pied de la croix ce pardon généreux. Personne ne peut dire ce matin, j'ai trop péché, j'ai trop dit, j'ai trop fait, oh monsieur, si vous me connaissiez. Non, je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Et de sa part, je peux vous dire qu'il pardonne tous vos péchés, quel qu'en soit le nombre, quelle qu'en soit la gravité. Mais le chemin de la croix est au présent. Le chemin de la croix, c'est tous les jours. C'est tous les jours que je dois marcher sur le chemin de la croix. L'œuvre de la croix est un fait historique, légal. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix, Colossiens chapitre 2. Mais je ne peux pas en rester là, je ne dois pas en rester là, ou alors je suis comme ce jeune garçon dans cette période de transition. Cette période de transition est la plus courte de mon expérience. Je viens d'être délivré, pardonné, je suis libre. J'ai envie de fuir. À moi la liberté. J'ai envie de rester avec les miens, me séparer des miens. C'est terrible. Ou alors revenir vers celui qui m'accorde légalement cette liberté totale et lui demander de me placer sous son joug. Mais vous ne pouvez pas rester dans cet entre-deux. Il n'y a pas de no man's land dans ce domaine-là. Ou alors vous êtes en danger. Le vieil homme descendant d'Adam est crucifié à la croix. Ainsi, l'ancien Adam qui m'a tellement apporté de difficultés, de problèmes et de misères, il est définitivement cloué à la croix. Vous l'avez laissé dans les eaux du baptême. En Christ Jésus, vous êtes dans le nouvel Adam. Et vous devez marcher de progrès en progrès. Vous marchez maintenant en nouveauté de vie, dans la mesure où vous vous donnez au Seigneur, où vous acceptez d'être l'esclave de Jésus-Christ. Comment ne pas faire autrement que de se donner ? De se donner volontairement, s'offrir au Seigneur qui nous a tant aimés, qui nous aime tant. Et je reviens à mon texte de départ qui commence par ces mots « Je vous exhorte donc ». Ce « donc » nous ramène aux 11 premiers chapitres de l'Épître aux Romains. J'ai voulu les lire d'un seul trait, plusieurs fois, pour m'imprégner de ce « donc » qui est une conséquence, « donc » qui est une conclusion. Tout ce que Dieu a fait pour moi, Paul nous l'explique. Paul s'adresse aux Juifs, Paul s'adresse aux gentils. Osaïe dit, vous avez été retranchés de l'olivier franc. Aux autres, il dit, vous avez été coupés de l'olivier sauvage pour être greffés sur l'olivier franc. Ces 11 premiers chapitres amènent Paul au chapitre 12 et à la conclusion. Les compassions de Dieu sont-elles ? J'ai consulté toutes les versions qui nous disent les bontés de Dieu, la miséricorde de Dieu, la magnanimité. Un mot qu'on n'utilise plus. Sont le motif qui doit nous pousser à une consécration totale, y compris de nos corps. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Offrir son corps, c'est offrir sa vie. Vous ne savez-vous pas, dit Paul, que vous avez été rachetés à un grand prix et que vous ne vous appartenez plus. Si j'ai été racheté, je ne m'appartiens plus. J'appartiens à celui qui m'a racheté. Seulement celui qui m'a racheté ne kidnappe pas, il ne vole pas. Celui qui m'a racheté attend mon adhésion volontaire, mon offrande volontaire. Il ne nous prend pas de force. Savez-vous que cette épître aux Romains, à chaque fois qu'elle fut découverte au cours de l'histoire de l'Église, suscita un réveil spirituel. Tellement son message, qui est à la fois dogmatique, doctrinal, mais aussi tellement pratique, réveille, bouleverse, bouscule, remet en question. Nous ne pouvons pas nous contenter d'un culte superficiel, d'un culte formel. Un jour par la semaine, pour la semaine, 90 minutes chaque semaine. Est-ce là le vrai culte ? J'ai payé mon service Seigneur, tu peux être content de moi, j'étais au culte, j'ai passé 90 minutes. C'est pas cher, hein? Pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Non, il est question d'un culte vrai. D'un culte logique. D'un culte raisonnable. Même d'un culte conforme. J'ai consulté toutes les versions à ma disposition. Un culte conforme, un culte agréable, un culte intelligent, un culte spirituel. Le vrai culte. Et parole vivante qui amplifie la pensée dit, c'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. C'est quoi le vrai culte ? Le vrai culte, c'est d'offrir, de donner ma vie, mon corps. J'ai rencontré le Seigneur, j'avais 17 ans. J'étais un jeune homme bien, sous tous les rapports, devant les autres. Mais je connaissais mon cœur, la noirceur de mon cœur. Je n'ai pas eu de difficulté à accepter que j'étais un pécheur. Je suis passé par cette période de transition où j'ai dit, qu'est-ce que je fais ? Et j'ai vite dit, Seigneur, je te donne ma vie. J'ai donné au Seigneur les plus belles années de ma vie. J'ai donné au Seigneur ma force, mon énergie. Je voulais qu'une chose, servir le Seigneur dans des tâches cachées. Je ne voulais pas de ce service public. Et si je suis arrivé à cela, c'est parce que Dieu m'y a contraint. Et je le dis devant lui. Et je n'ai pas honte de le dire. Ne restez plus dans cette transition dangereuse. Entrez dans ce culte logique, raisonnable, intelligent, spirituel, qui consiste à vous placer sur l'autel. Et on savait très bien à l'époque ce que ça voulait dire. L'autel, qu'est-ce qu'on y mettait sur l'autel des victimes ? On les égorgeait. Aujourd'hui, ne craignez rien. C'est vous qui allez vous placer. Personne ne va vous y placer. Personne ne va vous prendre par la peau du cou et vous placer sur l'autel. Non, non, non. Chacun. Après l'œuvre de la croix, il y a le chemin de la croix. Et là, je vais marcher selon la règle de l'amour. Je ne vais plus marcher par peur, par obligation, par contrainte, mais par amour. Il n'y a plus de peur. L'amour et la crainte, dit un proverbe espagnol, ne mangent pas dans la même assiette. S'il y a amour, il n'y a pas de crainte. S'il y a crainte, il n'y a pas d'amour. L'amour parfait bannit la crainte, dit Jean. J'obéis, je suis un esclave libre de Jésus-Christ. Et le culte que chacun doit à Dieu, c'est le don de sa vie. T'es-tu donné à Dieu ? Certains diront oui, oh, ça fait 10 ans peut-être. Ça fait 15 ans. Ça fait 5 ans. Ah, et depuis ? Oui, c'est vrai que depuis, j'ai repris pas mal de choses. Combien de fois ne devons-nous pas renouveler ce don ? Nous l'entendre prononcer. Je ne pourrais pas vous dire combien de fois j'ai dit au Seigneur, je te donne ma vie. Et tout à l'heure, je disais, j'ai donné au Seigneur toutes mes forces vives. Et 60 ans après, je dis, Seigneur, je te donne tout ce qui reste. Toute l'énergie qui me reste, toute la force qui me reste, tout le temps qui me reste, Dieu seul le sait. Mais je veux aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voilà donc le nouveau culte que Paul annonce. Il consiste à m'offrir moi-même et ce faisant, me placer sous une nouvelle autorité. Souvent dans la prédication, et moi le premier, nous avons insisté sur l'affranchissement, sur la libération. En oubliant de parler du but de cette liberté. Nous avons tous une doctrine de la liberté très agréable, humaniste, égoïste, mais une véritable compréhension, conscience des compassions de Dieu produira en nous un changement de captivité, comme pour le jeune esclave de notre histoire. Trop souvent, nous pensons que la liberté est un but. La liberté est le but. Mais la liberté retrouvée, pardonnez-moi, je répète, la liberté retrouvée n'est qu'une zone de transition. Elle n'est pas tout ce que Dieu veut. Il veut l'offrande de nos vies, nos corps, en sacrifice vivant. Et d'ailleurs, il est dit, vivant, saint, agréable à Dieu. On s'offre vivant. On ne pouvait offrir qu'une bête vivante. On ne pouvait offrir qu'une bête en bonne santé. On ne pouvait pas offrir une bête infirme, borgne, boiteuse, etc. On offrait à Dieu le meilleur. Je vais rapidement. La liberté n'est pas la délivrance de quelque chose, mais la liberté est la délivrance pour quelque chose. La liberté n'est pas la délivrance de quelque chose, mais la liberté est la délivrance pour quelque chose. Pourquoi ? En deux mots, pourquoi ? Délivré, affranchi, pourquoi ? Pour quelle raison ? Pour quel motif ? Libéré pour donner ma vie au Seigneur. Libéré pour que ma vie serve à quelque chose. Lorsqu'il est dit, et vous recevrez une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins. On oublie quelque chose, parce qu'on a perdu le contexte. À l'époque, lorsqu'on disait « vous serez mes témoins », c'était « vous serez mes martyrs ». C'est le même mot. Car à cette époque, vouloir être témoin de Christ, c'était devoir terminer en martyr. Qui est prêt ? Vous demandez la puissance, pourquoi ? J'ai demandé la puissance, pourquoi ? Je demande la puissance pour mourir comme témoin s'il le faut. Non pas que je veuille mourir, mais s'il me faut mourir en martyr, je veux être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et on voit Étienne, il meurt sous l'onction du Saint-Esprit. Il meurt en voyant le ciel s'ouvrir. Et sa mort impressionne à tel point Saul de Tarse, plein de fureur, que ce jour-là, la forteresse qu'est Paul, Saul de Tarse, se fend, est ébranlée. Et son expérience sur le chemin de Damas ne fera que emporter l'adhésion. La liberté pour quelque chose. La liberté pour comprendre à quelle place Dieu me veut dans l'Église. Mais avant, à quel endroit du corps, puisque l'Église est un corps, l'Église n'est pas une organisation. L'Église est un organisme vivant, c'est un corps. Quel membre de ce corps suis-je, Seigneur ? Affranchi pour quelque chose, pour que je trouve ma place dans le corps de Christ. Pour que je comprenne quel est mon don. Quel est mon don ? Vous avez reçu un don. Même si vous êtes le plus petit d'entre nous, la personne la plus insignifiante, vous avez reçu un don. Ce don détermine un ministère. Il n'y a pas qu'un ministère dans l'Église, celui de pasteur. Il y a des ministères. Il y a des services. Le don que j'ai, qui peut être au départ un don naturel, ce que j'ai été dans ce monde, quel que soit ce que j'ai été, me prépare. Moi, l'affranchi du Seigneur, devenu esclave de Jésus-Christ, me prépare un service qui va être amplifié grâce au don du Saint-Esprit. Je me dis, mais quand je regarde l'Église, je dis, mais où sont les dons ? Où sont les ministères ? Où sont les services ? Je prie, je sais que votre pasteur, vos pasteurs prient. Seigneur, fais lever. Mais peut-être cela vient-il de ce que nous sommes encore sous l'œuvre de la croix et non plus sur le chemin de la croix. Peut-être que nous considérons toujours le Seigneur comme celui qui donne, qui donne, qui donne, une sorte de distributeur inépuisable de grâce, de bénédiction, de secours. Oh, certes, le Seigneur donne, donne, donne. Mais n'est-il pas en droit de demander à ce que ce qui demande se donne aussi ? Peut-être comprenez-vous pourquoi vous tournez en rond, pourquoi vous n'êtes pas exaucé comme vous l'aimeriez. Non pas que l'exaucement vienne de nos mérites, je ne veux pas dire cela, mais le Seigneur est en droit de dire, mais écoute, oui, moi je suis prêt à donner, mais j'aimerais tellement que tu te donnes. J'ai besoin de toi. Et tu ne veux pas de mon joug ? Tu ne veux pas recevoir mes instructions ? J'ai entendu que la banque alimentaire recrutait. Y aurait-il que 2 ou 3 dons de secourir dans l'Église ? C'est un don, le secours. C'est un don, la compassion. Et ceux qui y travaillent depuis des années, peuvent à un moment avoir envie de faire quelque chose, parce que le Seigneur ne nous maintient pas toute notre vie dans le même don, dans le même organe. Il peut nous inviter à passer à autre chose. Lorsque nous avons été fidèles dans les petites choses, il nous en confie de plus grandes. Il y a des services qui usent. Où sont les dons ? N'y aurait-il pas dans la semaine quelqu'un qui est tout à coup une idée géniale et qui le dimanche, à la fin du culte, aille trouver vos pasteurs en disant « Frère, quoi que ce soit que vous ayez besoin cette semaine, je suis prêt. » C'est le don d'aider, ça existe le don d'aider. Je ne sais pas, je n'ai pas vu ça avec votre pasteur, mais peut-être qu'un mardi soir, il serait content que quelqu'un l'appelle en lui disant « Frère, si vous voulez, je vous conduis ce soir à Barcelonnette. » Et alors, les ministres ont des chauffeurs. Les préfets ont des chauffeurs, les chefs de service ont des chauffeurs. Est-ce que de temps en temps, il n'y aurait pas un chauffeur pour conduire notre frère Caboret jusqu'à Barcelonnette, l'ayant fait cette route pendant des années, je sais ce qu'il en coûte. Le chemin de la croix. Je renonce à mon match de foot. Je renonce à mon match de hockey. Je renonce à mon émission préférée. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Et c'est dans cette disposition de cœur que nous découvrons, nous discernons, nous comprenons. Nous devinons la volonté de Dieu. Qui est bonne, agréable et parfaite. Non plus ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. N'y a-t-il plus de pianiste ? Il y a une époque dans cette église où il fallait faire un tour. Il y avait trop de pianistes. Je ne dirais pas que les pianistes se disputaient, mais il fallait mettre les choses en ordre. Et aujourd'hui, il n'y a plus de pianistes. Mais où est le don ? Où est le don ? Le don, il n'est pas pour toi. Le don, il n'est pas à toi. Le don, il est à Dieu. Et tu es à Dieu. Et tu dois être l'esclave de Jésus-Christ. Sinon, tu es esclave de toi-même. Tu es esclave de ton caractère. Tu es esclave de ta nature. Tu es esclave de toutes sortes de choses. Sur le chemin de la croix, nous découvrons la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui multiplie, le Saint-Esprit qui donne de l'intelligence, le Saint-Esprit qui donne de l'aisance. C'est extraordinaire. Mais je ne peux pas terminer maintenant sans parler, après avoir parlé de ce chemin de la croix, de ce vrai culte, de cette perception nouvelle qui est la modestie. La modestie. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. La modestie, ce n'est pas quelque chose de naturel. La modestie, ce n'est pas de la timidité. La modestie, ce n'est pas une fausse humilité. La modestie, c'est savoir qui je suis, savoir ce que j'ai reçu pour comprendre ce que je dois être, où je dois être, pour accomplir ce que le Seigneur me demande. La conversion nous introduit dans une nouvelle société, celle des enfants de Dieu. Et chacun dans cette société a sa place, a son rôle, a son don, a son exercice. Complète ce que l'autre n'a pas reçu, ce que je n'ai pas l'autre là. Personne n'est appelé à tout faire, mais tout le monde participe à l'œuvre, quelle qu'elle soit. Et si je ne sais pas encore, il ne me reste plus qu'à demander au Seigneur, « Seigneur, montre-moi ma place, quel que soit mon âge. » Alors il nous faut éviter une opinion de soi exagérément élevée, et l'inverse, un sentiment d'infériorité. Je dois être dans cet équilibre. En Christ, je sais qui je suis dorénavant. En Christ, je sais que Dieu m'appelle à être servante, serviteur de Dieu. Alors, en conclusion, ce matin, je voudrais dire, ce message ne peut pas rester sans réponse. Il nécessite une réponse de chacun de nous. Après l'œuvre de la croix, il y a le chemin de la croix. Nous avons tant d'exemples dans la Bible et dans l'histoire de l'Église de femmes, d'hommes si simples qui se sont donnés à Dieu et qui ont été remplis du Saint-Esprit pour des œuvres inattendues. Je n'ai pas le temps de vous parler de certains d'entre eux. Au pied de l'autel, ton Seigneur t'attend maintenant. Que fais-tu de la liberté qu'il t'a donnée? Cette liberté, tu dois lui offrir maintenant. La liberté n'est pas la délivrance de quelque chose, mais la délivrance pour quelque chose. Alors, si je ne sais pas encore pour quoi, en direction de quoi, je peux faire quelque chose qui est de mon ressort, c'est d'offrir mon corps, ma vie au Seigneur comme un sacrifice saint, vivant, ce qui sera agréable à Dieu. C'est là le vrai culte, c'est là le culte logique, c'est là le culte raisonnable. Voulons-nous nous lever ? Je regrette d'avoir été long. Mais ne fallait-il pas dire ces choses ? Et avant de vous les avoir dites, je me les suis dites. Ça fait une semaine que je me dis ces choses. Et que j'ai voulu paraître devant vous avec honnêteté et vérité. Avant de quitter ce Dieu, il faut que vous donniez votre vie, votre cœur au Seigneur. Même si vous l'avez fait, renouvelez le don de vos vies. Le Seigneur a besoin de vous, l'Église a besoin de vous.